L'avenir financier immédiat de la Calédonie se joue cet après-midi au Congrès. Les élus doivent étudier la fameuse décision modificative numéro 6 qui intègre l'aide de 27 milliards garantie par l'État. L'avenir du site minier de Thiot s'assombrit davantage. C'est demain que les 230 salariés du site seront mis au chômage. C'est déjà Noël pour les enfants de l'Institut d'autisme du Mont d'Or. Le Père Noël est passé les voir ce matin. Des lézards et des plantes endémiques de Calédonie menacées de disparition. L'Union internationale pour la conservation de la nature les a placés sur la liste rouge des espèces menacées. En métropole, Emmanuel Macron tente de conclure un pacte de non-censure avec la plupart des groupes politiques avant de nommer un Premier ministre, nomination qui devrait intervenir dans les 48 heures. Et puis en sport, le PSG s'impose enfin en Ligue des Champions 3-0 sur le RC Salzbourg. Brest continue sa belle aventure et s'impose 1-0 sur le PSV Eindhoven. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La décision modificative numéro 6 du budget principal propre de la Nouvelle-Calédonie au menu des élus du Congrès qui sont convoqués cet après-midi à 14h pour une nouvelle séance publique. Ils doivent donc examiner la fameuse DM6 qui intègre dans le budget de la Nouvelle-Calédonie les 27 milliards qui ont été débloqués dans le projet de loi de fin de gestion adopté in extremis par l'Assemblée nationale juste avant la chute du gouvernement Barnier. Cette somme doit permettre au territoire de boucler l'année en garantissant le financement des provinces et des communes, le fonctionnement du RUAM, la pérennité du régime d'assurance chômage et la stabilité des NERCAL. La somme a été votée par l'Assemblée nationale, mais il faut encore que les élus du Congrès l'adoptent. Hier, à la veille de cet examen, le monde économique et les partenaires sociaux ont lancé des appels à la responsabilité des élus. Selon nos informations, une majorité s'est dégagée en commission des finances pour l'adoption de cette DM6. Les élus doivent également examiner 5 autres délibérations cet après-midi, et notamment les décisions modificatives numéro 1 du budget annexe de reversement et du budget annexe de répartition. Ils doivent aussi modifier la délibération relative à l'affectation de la TGC et adopter diverses dispositions financières et budgétaires dans l'attente du vote du budget primitif 2025. Les salariés de la SLN à Thiot mis au chômage. Le site a été mis en sommeil mi-octobre en raison de l'impossibilité persistante d'accéder au site minier depuis avril, mais aussi faire face aux nombreuses dégradations commises sur les installations de la SLN, Nicolas Legrand.
Oui, l'industriel a été pris pour cible à de nombreuses reprises. Les sites sont bloqués depuis plus de 8 mois maintenant et ont été victimes d'intrusions répétées, avec notamment des vols de matériel. Les équipements et les infrastructures ont été pillés, dégradés et pour certains incendiés, comme les ateliers, les bureaux administratifs, les convoyeurs de chargement, le laboratoire ou encore les villas d'employés, mais aussi des engins. Résultat, le 9 octobre dernier, la direction a entamé un processus d'information sur cette mise en sommeil. Demain, les salariés seront donc licenciés. Une décision qui ne passe pas pour le secrétaire général adjoint de l'USOINC, Alexis Falematagia.
Nous, on n'est pas d'accord sur la proposition de protocole qui a été donnée par la direction de la SLN. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, vu que ça a été cassé, on jette tout le monde dehors. Aujourd'hui, on a une économie qui est vraiment catastrophique et ça va venir amplifier le chômage qu'on a à la CAFAT. Donc nous, d'un point de vue U5, avec les discussions, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'État, les élus, l'industriel et les partenaires sociaux, la société civile, puissent se mettre autour de la table pour discuter du centre de minier de Thiot. Parce qu'aujourd'hui, ces salariés ont travaillé depuis des années au sein de Thiot. Ce qu'on demande, c'est peut-être prendre ces salariés-là, les mettre de manière temporaire dans les autres sites miniers, le temps de trouver une solution pour pouvoir les mettre au boulot dès que ça sera rouvert l'activité sur la mine de Thiot. Mais aujourd'hui, on peut pas faire des ruptures de contrat et les gars, allez, tata, au revoir, c'est pas possible. Nous, on peut pas accepter ça en tant que syndicat.
Le soin qui devrait saisir la DTE sur le sujet. Je rappelle que la SLN employait 230 salariés à Thiot et faisait également appel à 120 sous-traitants sur la commune.
De son côté, PRNC poursuit sa montée en puissance. Selon nos informations, elle serait aujourd'hui à 60% de ses capacités et a pour objectif d'arriver à la production nominale d'ici dimanche. Le repreneur potentiel de Prony Resources, le groupe sud-africain Sibanye-Stillwater, devrait se rendre sur site mi-janvier pour voir l'usine du Sud fonctionner et avoir un retour sur un mois de production. C'est le grand jour pour les élèves de terminale. Après une année scolaire très perturbée, c'est en début d'après-midi que seront affichés les résultats du bac 2024. Promotion un peu particulière puisque seuls les résultats du contrôle continu ont été pris en compte. Les élèves n'ont passé aucune épreuve cette année. En revanche, il y aura bien la semaine prochaine les épreuves du second groupe dites de rattrapage. Ce sont des épreuves orales pour permettre aux élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme du premier coup de pouvoir décrocher leur baccalauréat. Ces épreuves se dérouleront en début de semaine prochaine. Notez que le vice-recteur sera demain matin notre invité à 7h30. Et ce matin, c'est Manuel Van Aerschot, le nouveau directeur de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, qui était notre invité. Il succède à ce poste à Karen Cazot. La DEC, on le sait, a connu ces dernières années de grosses difficultés financières, un paramètre à prendre en compte alors qu'il faut déjà préparer la rentrée scolaire 2025. Écoutez Manuel Van Aerschot qui reste optimiste.
Il faut savoir que certaines collectivités s'acquittent complètement de leurs obligations financières, notamment, je pense à la province sud qui nous accompagne pour les collèges, qui a pris à sa charge, comme le prévoit la délibération 360, aux besoins des communes pour 3 ans. Nous avons trouvé un accord avec la province des îles qui nous versera 90% charge aux communes de prendre les 10% restants. Et il y a la province nord qui se charge effectivement des collèges et qui, pour l'instant, ne prévoit pas de prendre en charge les communes. Les lycées étant pris par le gouvernement, le Congrès, la Nouvelle-Calédonie.
L'enseignement catholique tient une place importante dans le paysage scolaire de la Nouvelle-Calédonie, un enseignement qui s'appuie sur les valeurs de l'Église et de l'Évangile. Et nous avons demandé à Manuel Van Aerschot quel pastoral il souhaitait mettre en place.
Nous allons appliquer ce que nous appelons chez nous l'Arche Nouvelle, qui est écouter, espérer, croire. Par contre, effectivement, il va falloir que nous nous adaptions au nouveau caractère, on va dire, sociétal, suite aux événements qui ont démarré le 13 mai 2024. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Il va falloir qu'on prenne cette nouvelle condition et qu'on tisse du lien. Il va falloir faire comprendre que un si petit archipel, il faut qu'on vive en commun et c'est bien à l'école qu'on commence à l'apprendre.
Manuel Van Aerschot, le nouveau directeur de la DEC, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique, était donc notre invité ce matin. Une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet. En bref, notez que le premier vol reliant la Nouvelle-Calédonie à la métropole, premier vol ACI, a décollé la nuit dernière, un peu après 2h du matin, de l'aéroport de la Tontouta. Ce vol SB500 vient de se poser à l'instant sur l'aéroport international de Bangkok pour une escale technique qui va durer 2h. L'appareil, un Airbus A330neo, devrait ensuite se poser demain matin pour nous aux alentours de 3h30 sur les pistes de Roissy-Charles-de-Gaulle. Cette nouvelle ligne Nouméa-Paris via Bangkok sera opérée 2 fois par semaine par ACI. Les départs se font les mercredis et samedis depuis la Tontouta.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. La nouvelle ligne Nouméa-Paris via Bangkok, entièrement opérée par Air Canin, va-t-elle permettre selon vous le redressement et le développement de la compagnie aérienne? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 74% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment utile de déclarer l'urgence climatique en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 26% à être d'un avis contraire. Et avant de marquer une pause, ce rappel du Haut-Saria, êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales? Comme chaque année, le Haut-Commissariat rappelle en effet qu'il est important de vérifier si chacun est bien inscrit sur la liste électorale. Pour celles et ceux qui ne le seraient pas encore, il est impératif de le faire et pour cela de se rapprocher de la mairie de résidence avant le 31 décembre, ce qui permettra, si vous êtes inscrit, évidemment, de pouvoir voter aux élections prévues en 2025. Une mise à jour de ces listes électorales doit être effectuée et les électeurs dont l'adresse ne correspond pas au domicile sont susceptibles d'être radiés. 11h39, donc une première pause. Dans un instant, c'est le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Vivez une expérience unique avec le nouveau SUV Chevrolet Captiva. 7 places pour embarquer toute la famille, boîte automatique, écran tactile 10 pouces pour un contrôle intuitif, caméra de recul pour plus de sécurité, barre de toit pour tout transporter, jantes alliage pour affirmer votre style. Nouveau SUV Chevrolet Captiva, à partir de 3 290 000 francs TTC seulement. Chevrolet, au village automobile, PK4 à Nouméa. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flick Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flick Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flick Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo.
Un numéro 28 94 20.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie est la faune et la flore calédonienne menacées. Certaines espèces ont même rejoint la liste rouge des espèces menacées, Léana Colombo.
Cette liste est le résultat d'une étude conduite sur près de 10 ans par de nombreuses institutions et associations environnementales, dont l'association Endemia en Nouvelle-Calédonie. 69 espèces de lézards, dont des geckos, et 643 espèces de plantes, comme des fougères ou des orchidées, se sont révélées menacées de disparition sur le territoire, ce qui représente tout de même 2/3 des lézards et 40% de la flore calédonienne. Avec ces espèces uniques au monde, il était donc primordial de les inscrire sur cette liste pour contribuer à leur protection, explique Aurélie Fourdrin, directrice de l'association Endemia et coordinatrice de l'autorité, Liste Rouge.
Ça leur donne de la visibilité au niveau mondial. Et puis également, tout ce travail d'évaluation, en fait, il est réalisé avec un groupe d'experts de niveau chercheurs, hein, même si ce sont des naturalistes passionnés, ce sont des gens qui ont vraiment une compétence énorme sur ces domaines. Donc en fait, les résultats issus des travaux d'évaluation sont vraiment d'un niveau scientifique. Donc ce qui permet derrière, par exemple, aux collectivités, donc aux provinces, entre autres, de se servir de nos résultats d'évaluation liste rouge pour inscrire ces espèces-là sur les listes d'espèces protégées dans les codes de l'environnement. Donc c'est vraiment un travail qui est essentiel. Ça permet aussi à des gestionnaires d'espèces d'aires protégées de prioriser les espèces à protéger en priorité, de s'appuyer sur une base solide et scientifique en fait derrière pour toutes les personnes qui travaillent dans la conservation et la restauration.
Le bilan dressé a permis d'identifier plusieurs menaces croissantes qui pèsent sur cette biodiversité comme l'urbanisme, l'agriculture et le tourisme, mais pas uniquement, souligne Aurélie Fourdrin.
La menace principale, c'est le feu, malheureusement. On sait que c'est une horreur, le feu, en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que les 3/4 des espèces sont menacées par les incendies. Malheureusement, donc, les évaluations depuis 2014 nous montrent pas d'amélioration de ce côté-là. On est toujours sur 3/4 des espèces qui sont menacées. Et puis ensuite viennent les mines, surprise également, on connaît tous leur impact. Et puis les espèces envahissantes, principalement les cerfs pour la flore, et puis d'autres espèces comme éventuellement les fourmis électriques ou les chats retournés à l'état sauvage pour les lézards.
Si la faune endémique à la Calédonie a été entièrement répertoriée, ce n'est pas encore le cas de la flore locale. Endemia estime être proche des 70% sur les 3500 espèces de plantes qui peuplent le territoire. D'autres espèces viendront donc très certainement rejoindre cette liste rouge dans les prochaines années.
La fin de l'année approche et c'était déjà Noël à l'Institut spécialisé d'autisme du Mont d'Or, Michael Juneski. Il a lieu aujourd'hui même sur le site de NISA à Robinson.
Oui, une fin d'année en fête avec tout ce qu'il faut pour accueillir les familles et surtout de quoi donner le sourire aux enfants et aux jeunes accompagnés au sein de l'Institut. Virginie Dubourg est la directrice de NISA.
Comme chaque année, avec le soutien du conseil d'administration, du conseil d'établissement, avec les représentants des parents et des professionnels, mais surtout avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, on organise le Noël pour les enfants de l'Institut. Château gonflable, on a une maquilleuse, barbe à papa, pop-corn, granité, croque-monsieur, hot-dog, voilà, tout a été confectionné par les équipes et avec le soutien de super partenaires.
Et tout au long de l'année, 77 enfants, adolescents et jeunes adultes sont accompagnés au sein de NISA et encadrés par 46 professionnels à travers différents champs disciplinaires. Aujourd'hui, près de 200 personnes sont présentes pour ce Noël dans les locaux de NISA, les parents avant tout heureux de faire honneur au travail mené par les équipes éducatives, pédagogiques et thérapeutiques tout au long de l'année.
Je pensais qu'ils n'allaient pas le faire cette année, mais bon, ils ont réussi à maintenir ce que les enfants ils attendent déjà d'eux. On est contents, les enfants ils s'épanouissent, voilà, ils sont très heureux. Belle journée.
Oui, belle journée. Contente pour les enfants, ça les fait sortir un peu du cocon des émeutes, qu'on a passé le cap, ben, les étoiles dans les yeux, quoi, on va dire, pour terminer l'année.
Pour mon fils surtout, c'est pas tout le temps. Très content pour lui, surtout. Très content de voir comment il a évolué dans cet institut. Je voudrais remercier, profiter de l'occasion de remercier tout l'institut pour le travail et les efforts fournis durant toute l'année.
Je suis heureux avec tous les enfants autistes et les encourage.
Et les enfants ont eu la chance de recevoir ce matin un invité de prestige, le Père Noël, qui nous a accordé quelques mots.
Le but, c'est de créer du bonheur, créer de la joie, et puis surtout, dans ces enfants au sein de l'Institut spécialisé d'autisme, voilà, leur faire passer un moment différent de celui qu'ils vivent tous les jours avec l'arrivée du Père Noël.
Reggae, toute l'équipe tient le cap. Ça aussi, à vos yeux, c'est quoi le mot qui vous vient à l'esprit?
D'abord, l'immense compétence de tout le personnel, je crois. C'est celui-là qui est le plus important parce que quand ce projet a été initié, On ne savait pas trop, en fin de compte, où on allait, si ce n'est un premier objectif qui était celui de créer du soulagement chez les parents. Ce projet a pris de l'ampleur, est devenu hyper professionnel, très pédagogique. Et puis, quand on voit, depuis 10 ans maintenant, tous les enfants qui sont passés par ici et les énormes progrès qu'ils ont pu réaliser, ceci, c'est grâce au personnel, il faut le dire, et au personnel encadrant et de service, quoi, qui fait un énorme travail auprès des enfants. Voilà, on est quelques bénévoles à être au conseil d'administration de cette association qui gère l'institut, et c'est un vrai bonheur de voir ce qu'est devenu ce projet.
Alors, on va faire la distribution des cadeaux. Vous
aurez reconnu le Père Noël du jour, alias Éric Guay, l'ancien maire du Mont-d'Or, membre du conseil d'administration de l'Institut spécialisé autisme, impliqué de longue date dans ce projet. Les enfants qui ont eu la chance de recevoir des cadeaux offerts par de généreux donateurs, dont une partie des dons collectés à travers l'opération Au cœur de Noël sur RRB.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Eh oui, votre générosité a donc fait déjà des heureux, notamment ce matin à l'Institut d'autisme du Mont-d'Or. Votre générosité qui se manifeste tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir, à déposer des cadeaux pour les enfants de 0 à 16 ans qui seront distribués aux familles les plus en difficulté pour cette période de Noël. Merci de votre générosité. Alors parmi les personnes passées ce matin, il y en a eu beaucoup. Catherine et Patricia.
Les enfants sont tellement importants pour moi, qui en ai 3 et 3 petits. Et j'adore jouer à la Mère Noël avant Noël, parce que le partage, c'est tellement important pour nous.
Je le fais tous les ans, depuis quelques années, et que c'est important, d'autant plus par les temps qui courent.
Qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui ?
Des puzzles, 1 000-1 500 pièces, j'en ai apporté 4. Et puis des livres que je vais retourner chercher dans la voiture, parce que quand je suis sortie, mon sac s'est cassé, et du coup, le papier cadeau, il s'est tout déchiré.
Voilà, on vous attend de 7h30 à 19h, tous les jours, à Radio Rythme Bleu. Vous pouvez aussi déposer vos cadeaux à la boutique Petit Dôme, route de Lanzvata, qui nous accompagne depuis le début de cette opération Au cœur de Noël qui se poursuit. On compte toujours sur votre générosité. N'hésitez pas, venez nous voir. Ce sera vraiment un bonheur de vous recevoir. Il est 11h48. La suite de ce journal avec l'actualité dans la région et de nouveaux actes antisémites dans une banlieue de Sydney. Une attaque qui a été condamnée par le Premier ministre Anthony Albanese. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Une voiture a été incendiée devant une maison de Woollahra dont le mur d'enceinte a été tagué d'un slogan réclamant la mort d'Israël. Plusieurs autres voitures ont été endommagées. La même banlieue avait été similairement ciblée voici de cela 3 semaines. Plusieurs voitures y avaient notamment été détruites par le feu. Tôt ce matin, cette nouvelle attaque antisémite a été condamnée sans équivoque par le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui l'a également qualifié de scandale. « Ce n'est pas le Sydney que nous voulons », a surenchéri son homologue du New South Wales, Chris Minns. L'ancien Premier ministre Tony Abbott a quant à lui lié cette flambée antisémite à la récente vague d'immigration en provenance du Moyen-Orient. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Une nouvelle pause dans ce journal et on va se retrouver pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde. En métropole, c'est bien sûr l'annonce d'Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre sous 48 heures.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer par l'actualité en métropole et Emmanuel Macron qui compte annoncer le nom du nouveau Premier ministre d'ici 48 heures. Le chef de l'État l'a dit aux représentants des groupes politiques qu'il a reçus à l'Élysée. Tous les groupes politiques, sauf le Rassemblement national et la France insoumise. Emmanuel Macron essaie de conclure un pacte de non-censure avant la nomination du Premier ministre pour s'assurer d'une certaine stabilité. Un pacte de non-censure, c'est sans doute possible, explique le patron des LR, Laurent Wauquiez, mais pas plus.
Autant j'espère qu'il peut y avoir un accord pour au moins ne pas faire tomber un gouvernement, autant nous ne croyons pas à la possibilité de discuter un contrat de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il faut faire pour la France.
Les forces de gauche aussi font un pas à condition, explique la chef des écologistes Marine Tondelier, que le prochain Premier ministre soit issu des rangs de la gauche.
On a posé un geste fort. Nous nous sommes engagés, si nous étions nommés, à ne pas utiliser le 49-3. Quand on dit ça, on voit bien que c'est un exercice de reconnaissance finalement de la démocratie parlementaire.
Et ces consultations devraient permettre à Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre d'ici 48 heures. Mais c'est aussi un test pour le nouveau Front populaire qui pourrait imploser alors que la France insoumise fait cavalier seul. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Tout va dépendre de la personnalité, du profil du futur Premier ministre. Pour répondre aux accusations de trahison lancées par les Insoumis, le PS explique que les discussions actuelles avec Emmanuel Macron ne sont pas incompatibles avec le nouveau Front populaire. Et les socialistes posent un principe non négociable. Le futur locataire de Matignon doit être issu des rangs de la gauche. Sont-ils prêts à discuter aussi d'un accord de non-censure en cas de nomination d'un Premier ministre issu du bloc central ou de la droite? Oui, mais à condition qu'il y ait un véritable changement de cap politique qui tiennent compte des chantiers prioritaires portés par le NFP, explique le PS. De quoi donc laisser une marge de négociation? Pour être clair, Olivier Faure et les siens attendent de savoir s'ils obtiendront suffisamment de garanties avant de décider s'ils actent ou non une rupture totale avec les Insoumis.
C'est probablement le dernier conseil des ministres du gouvernement Barnier qui s'est réuni la nuit dernière pour nous pour expédier les affaires courantes puisqu'il est démissionnaire. Le Conseil des ministres qui a permis la présentation de la loi spéciale qui va prolonger les mesures votées dans le budget 2024 au-delà du 1er janvier. Alors que contient exactement cette loi? La réponse avec Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Elle contiendra trois articles pour éviter un shutdown. Le premier article autorisera l'État à prélever les impôts selon les mêmes règles que cette année. Le deuxième et le troisième article permettront à l'État et à la Sécurité sociale de recourir à l'emprunt sur les marchés financiers. Par ailleurs, la loi spéciale habilite le gouvernement à reconduire temporairement les dépenses du budget 2024. C'est ce qu'explique Benjamin Morel, maître de conférence en droit public.
Pour ce qui est des dépenses, elles peuvent être exécutées sur la base du budget de l'année précédente par voie de ce qu'on appelait naguère des deuxièmes provisoires, c'est-à-dire des dépenses de fonctionnement qui sont calculées sur la base d'un douzième de l'année précédente. Tout ça reste un copier-coller de l'année précédente, on ne peut pas non plus avoir de vraies dépenses qui seraient des dépenses d'investissement, donc tout ça rend l'État extrêmement fragile.
Le carcan de la loi spéciale empêche au moins temporairement les hausses de budget attendues par certains ministères, comme celui des armées. Enfin, ce texte qui doit être examiné puis voté à l'Assemblée et au Sénat pénalise les contribuables car il ne contiendra pas la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation.
L'actualité à l'étranger maintenant avec un gouvernement de transition installé en Syrie par les islamistes qui ont mis fin au régime de Bachar el-Assad. Ce gouvernement de transition est dirigé par Mohamed el-Bachir. C'était l'homme fort du groupe HTS à Idlib dans le nord du pays. Région où 200 Français ont rejoint le groupe islamiste HTS et certains d'entre eux ont même pris part aux opérations militaires menées par ces islamistes pour renverser le régime syrien. William Molinier.
Une douzaine identifiés comme des djihadistes actifs par les services de renseignement, seuls eux auraient pris les armes ces derniers jours. La majorité a abandonné l'idée d'un djihad global pour se fondre dans la population locale. Ces vétérans du djihad font profil bas car le HTS a officiellement renoncé à la terreur. Il impose des règles très strictes dans la région. Omar Diaby, par exemple, un des anciens recruteurs de djihadistes français, eh bien lui, il a fait les frais d'une trop grande autonomie. Il a déjà été emprisonné à deux reprises par le HTS. C'est dans cette zone aussi que se serait enfui Hayat Boumediene, la compagne d'Amedi Koulibaly, auteur de l'attentat de l'hypercachère en janvier 2015. L'inquiétude aujourd'hui des services de renseignement, c'est le risque de dispersion de ces djihadistes français. Ils étaient alors concentrés dans une région d'environ la taille du département du Rhône, mais ils vont pouvoir désormais se déplacer sur l'ensemble du territoire syrien, ce qui va compliquer leur surveillance avec ce risque qu'ils puissent plus facilement profiter des flux de réfugiés pour tenter de rejoindre l'Europe.
Il est 11h55, la dernière pause de ce journal. Dans un instant, c'est toute l'actu sport avec Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Marlène Alma, Païta et Port Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent de Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio aux 4 rue de Sébastopol vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on va ouvrir cette page de sport avec du football lyonnais. On jouait en effet ce matin le début de la 6e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Et deux clubs français étaient engagés dans cette compétition.
On met très mal en point dans cette édition 2024-2025 de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est donné un peu d'air ce matin lors de son déplacement en Autriche sur la pelouse de Salzbourg. Face à une équipe très largement à leur portée, les Parisiens sont imposés 3-0. Bussigné, Ramos, Mendes et Doué. Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain se relance donc dans la course à la qualification, au moins pour les barrages de cette Ligue des Champions. Autre club français engagé dans la compétition ce matin, le Stade Brestois, qui n'en finit plus de surprendre pour sa première participation à cette compétition continentale. Sur la pelouse du Stade du Roudourou à Guingamp, les Brestois, qui jouent complètement décomplexés dans cette Ligue des Champions, se sont imposés 1-0 sur les Batavs du PSV Eindhoven. C'est le Cardinal qui a inscrit le seul but de la rencontre. Avec cette victoire, les Brestois pointent à la 5e place de cette phase de Ligue. Dans les autres rencontres de la matinée, Liverpool s'est imposé 1-0 sur Eron. Le Real Madrid est allé l'emporter 3-2 sur la pelouse des Italiens de l'Atalanta Bergame. Kylian Mbappé a inscrit le premier but de la rencontre avant de quitter la pelouse sur blessure à la 36e minute de jeu. A noter également le carton du Bayern Munich qui s'est imposé 5-1 sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Suite de cette 6e journée de la première phase de la Ligue des Champions, ce sera demain matin pour nous. Lille et Monaco seront de la partie. Les Lillois recevront les Autrichiens du Sturmgrass, coup d'envoi de la rencontre à 4h45, heure de Nouméa. Et puis à partir de 7h, match de gala. Monaco sera en déplacement sur la pelouse des Gunners d'Arsenal.
Allez, on va prendre maintenant des nouvelles du Vendée Globe. C'est évidemment de la voile. Quatre skippers ont désormais franchi le Cap Lewin.
Effectivement, après Charlie Dalin, Sébastien Simon et Johan Richaume, c'est Thomas Ruyant à bord de Vulnérable qui a franchi il y a quelques heures le deuxième grand cap de ce Vendée Globe. Thomas Ruyant qui a donc mis comme ses concurrents le cap maintenant sur la Tasmanie. Écoutez le skipper de Vulnérable.
C'est parti pour la remontée du continent australien jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Après, on va changer de mer surtout, on va changer d'océan en Tasmanie. Prochain objectif, Tasmanie, passage de l'Indien au Pacifique.
Allez, un coup d'œil au classement de ce Vendée Globe. Charlie Dalin est bien évidemment toujours en tête sur Massif Santé Prévoyance. Il possède 242 000 d'avance sur Sébastien Simon, sur Groupe Dubreuil, et 373 000 d'avance sur Johan Richaume, sur Paprec Arkea. Thomas Ruyant, qui est donc quatrième, compte plus de 550 000 de retard sur le leader de la flotte. Ça fait quand même un petit millier de kilomètres de retard.
Allez, on va terminer avec du rugby et les affaires extra-sportives qui ont secoué le 15 de France pendant la tournée en Argentine. Après 5 mois d'enquête, la justice argentine a prononcé un non-lieu à l'encontre de 2 joueurs de l'équipe de France qui étaient accusés de viol sur une femme de 39 ans. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
La justice argentine estime que les accusations portées par la plaignante ne sont pas suffisamment étoffées pour poursuivre l'enquête. Dès le mois d'août, le parquet avait d'ailleurs déjà relevé des zones grises, des contradictions et des incohérences dans le discours de cette femme de 39 ans. Selon Antoine Veil, l'avocat français des 2 joueurs, le profil psychologique de la plaignante aurait également joué en faveur de l'abandon des charges.
La justice argentine pointe notamment une tendance de la plaignante à une victimisation qui est décrite comme pathologique et le fait qu'elle s'est plainte de faits qui n'ont pas pu se produire. Donc, sur la base de ces éléments, la justice a décidé de mettre fin aux poursuites. Et cette décision vient surtout dire que les deux joueurs sont innocents et qu'ils ont été victimes.
Conséquence de ce non-lieu, la Fédération française de rugby a annoncé tout à l'heure qu'Hugo Oradou et Oscar Jégou étaient de nouveau sélectionnables avec le 15 de France. Un non-lieu qui n'est cependant pas encore définitif, car nous l'apprenons il y a quelques minutes. L'avocate de la plaignante annonce ce soir faire appel de cette décision.